Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Un mandat d'amnistie internationale contre l'ancien président tunisien Moncef Marzouki. Il est accusé d'avoir porté atteinte aux intérêts de la Tunisie. Le soulagement après la reprise cette semaine des liaisons maritimes entre l'Algérie et la France. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. La pandémie de Covid-19, le nombre d'hospitalisations et le nombre de passages en réanimation augmentent en France notamment. Les autorités appellent les personnes éligibles à se faire administrer une dose de rappel du vaccin. Notre invité sera le docteur Luc Duquesnel, président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français. Le Parlement français autorise la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. L'Assemblée nationale a voté l'ultime mouture du projet de loi de vigilance sanitaire. Cela fait aujourd'hui 3 ans, ce drame à Marseille. 8 personnes étaient tuées dans l'effondrement de plusieurs immeubles rue d'Aubagne. 19 axes et 90 propositions, une 60aine d'organisations présentes, le pacte du pouvoir de vivre, une initiative à 150 jours de l'élection présidentielle. Le fondateur de l'association mémorielle Les Oranges, Mohamed Kaki, continue sa tournée dans les villes d'Île-de-France avec sa pièce « 17 octobre 1961, je me souviens ». Mohamed Kaki, que nous écouterons dans votre édition. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, ce samedi à 11h et 23h, sera Hajar Bali pour un premier roman, « Écorce », qui paraît en France chez Belfond, et en Algérie chez Barzac, extrait dans votre journal. La Tunisie a émis un mandat d'amnistie internationale contre l'ancien président Moncef Marzouki. Il est accusé d'avoir porté atteinte aux intérêts nationaux. C'est ce que rapporte l'agence de presse tunisienne, TAP, qui cite le bureau de presse du premier tribunal d'instance de Tunis. Moncef Marzouki avait appelé la France, lors d'une manifestation à Paris le 9 octobre, à retirer son appui au régime du président Kais Saied, qui s'est attribué en juillet dernier des pouvoirs exceptionnels. Moncef Marzouki a été le premier président élu après la révolution qui a renversé le régime de Zine al-Abidine Ben Ali en janvier 2011. Moncef Marzouki a dirigé la Tunisie jusqu'en 2014. Les Algériens peuvent de nouveau venir en France par bateau. Un ferry est arrivé mardi à Marseille avec à son bord près de 1000 passagers. Certains d'entre eux étaient bloqués en Algérie depuis le début de la pandémie et la fermeture des frontières en mars 2020. Cette reprise des liaisons maritimes représente un véritable soulagement, comme le souligne Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
C'est une décision qui était attendue depuis longtemps, et surtout depuis la réduction du nombre de cas positifs de la pandémie de Covid-19, puisque l'Algérie connaît une décrue depuis quelques semaines déjà. Et donc cela a encouragé les autorités non seulement à reprendre les liaisons aériennes au début de l'été dernier, renforcées durant le début de l'automne, et là la reprise effectivement des liaisons maritimes, parce qu'il y avait déjà beaucoup de plaintes par rapport aux vols. Tous les vols vers l'Algérie dans les deux sens sont souvent complets. Beaucoup de familles qui étaient bloquées pendant plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19 voulaient visiter l'Algérie, visiter leurs proches et leurs familles. Et donc, pour la première fois depuis le 20 mars 2020, parce que c'était la date de l'arrêt des liaisons maritimes, un ferry a relié Alger à Marseille. C'était au grand soulagement des voyageurs, puisque cela va un peu permettre aux Algériens de voyager avec leur voiture, de transporter plus de marchandises. Et évidemment, il y aura plus de voyageurs, parce que le ferry a la possibilité de transporter plus de personnes. C'est très bien reçu, et notamment par les agences de voyage qui ont souffert. Certains même ont mis la clé sous le paillasson en raison de l'arrêt des activités. Certains se sont retournés pour les agences de tourisme et de voyage vers ce qu'on appelle tourisme intérieur, c'est-à-dire les sud algériens, très prisés en période automne-hiver, et également vers les pays riverains, malgré les difficultés comme la Tunisie ou comme l'Égypte. Donc cette reprise, pas uniquement avec la France, puisque la reprise des traversées avec l'Espagne a commencé le 21 octobre entre Alger et Oran et Alicante. Alicante n'est pas très loin d'Oran, c'est dans l'ouest algérien. Le ministère des Transports algérien avait annoncé la reprise de toutes les liaisons maritimes le 12 octobre dernier.
Cela illustre une forme de retour à la vie normale. Quelles sont aujourd'hui les différentes contraintes en Algérie liées à la Covid-19?
Tout le monde souhaite une reprise normale des activités. Évidemment, les autorités continuent de mener une campagne pour que les Algériens se vaccinent plus. On a constaté ces dernières semaines un peu une chute du nombre des personnes qui voudraient se faire vacciner. Le ministre de la Santé, le professeur Abdelhamed Bouzid, a fait des déclarations. Il a prévenu contre la quatrième vague, puisqu'il a été constaté dernièrement qu'il y a quand même des hausses de cas de Covid-19 dans certains pays européens, comme aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, et en France également. Et évidemment, les autorités ont prévenu que dans le cas où la pandémie repart, on reviendra donc à la fermeture et à l'arrêt des liaisons aériennes et maritimes. Mais bien sûr, le contrôle sanitaire est renforcé aux frontières. Et maintenant, l'Algérie demande aux voyageurs d'avoir au moins un PCR de 72 heures pour monter dans un avion ou même pour la compagnie maritime. Et aussi avoir le carnet de vaccins pour ceux qui viennent dans des zones où la pandémie est toujours importante. Mais bien sûr, toute la situation reste sous observation en attendant que la situation s'améliore.
Pour le moment, un pass vaccinal tel qu'il existe notamment au Maroc n'est pas d'actualité en Algérie.
La question est déposée au ministre de la Santé. Le ministre dit que c'est pas le moment parce que c'est déjà compliqué d'imposer un pass. Il y a beaucoup donc de réserves pour les Algériens et de craintes, d'hésitations par rapport à la vaccination. C'est à peine 10 millions d'Algériens sur 45 qui ont été vaccinés. C'est très peu. Le ministère de la Santé, les autorités sanitaires ont tablé sur au moins 70% du nombre de vaccinés à la fin 2021, mais visiblement cet objectif ne sera pas atteint. C'est pour cette raison qu'il y a donc une volonté des autorités d'encourager la vaccination, par exemple, pour le prochain match contre le Burkina Faso qualificatif à la Coupe du Monde du Qatar 2022, il y a eu donc des appels du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération algérienne de football, pour encourager les gens à aller se faire vacciner pour pouvoir accéder au stade.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le chef de la diplomatie américaine demande au chef de l'armée soudanaise de restaurer le gouvernement mené par des civils. Anthony Blinken s'est entretenu avec le général Abdel Fattah al-Burhan après le coup d'État du mois dernier. Il lui a demandé de libérer immédiatement toutes les personnalités politiques détenues depuis le 25 octobre et de retourner à un dialogue ramenant le premier ministre Hamdok dans ses fonctions. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du rythme très préoccupant de transmission du Covid-19 en Europe actuellement. L'OMS craint 500 000 de morts supplémentaires sur le continent d'ici février. Une hausse des cas de Covid qui n'épargne pas la France, même si les autorités ne parlent pas de nouvelles vagues. Mais elles invitent les personnes éligibles à se faire administrer une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Cela concerne les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidité ayant reçu une dernière dose depuis 6 mois et plus. Entretien avec le docteur Luc Duquesnel, président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français.
On voit que comme dans beaucoup de pays, le virus circule plus, hein, on a plus de cas tous les jours, le nombre d'hospitalisations augmente, le nombre de passages de personnes en réanimation aussi dans les hôpitaux français augmente. On a encore eu, je crois, une quarantaine de décès hier suite au Covid, donc ça circule plus. Alors, d'un autre côté, on peut dire que ça circule plutôt moins que dans d'autres pays, à peu près 4 fois moins que dans des pays comme l'Allemagne, d'autres pays où la circulation du virus est beaucoup plus importante. Probablement du fait parce qu'en France, le fait de combiner aussi bien les mesures barrières que la vaccination, on est, je dirais, dans le trio de tête des pays conçus probablement avec le confinement aussi, bien sûr, et toutes ces mesures barrières, permettre une moindre circulation du virus. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la troisième dose, beaucoup de gens pensaient que finalement, voilà, j'ai fait mes 2 doses et puis je suis protégé. Or non, le vaccin contre la Covid, c'est comme les autres vaccins. Le vaccin, le rappel contre le tétanos, et quand on le refait, on le fait régulièrement.
Vous vous rappelez hein, l'importance de l'administration de cette troisième dose pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes qui présentent des comorbidités. Comment comprenez-vous le fait que cette troisième dose est pour le moment relativement peu administrée? Cela concerne environ une personne sur deux qui est éligible, je crois.
Voilà, il y a quelques jours, on était à 48%. Il est vrai que tous les jours, le nombre de personnes éligibles augmente, puisque aujourd'hui on peut vacciner, faire la troisième injection aux personnes à qui on a fait la deuxième injection il y a 6 mois. Et donc dans 15 jours, il y a aussi dans les 15 jours qui viennent, beaucoup d'autres patients qui vont devenir éligibles à la vaccination. Je crois que c'est un problème de communication. On a vu à quel point la communication qui avait été faite pour l'intérêt de se vacciner avait été bien comprise par la population. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément encore trouver le moyen de faire comprendre pourquoi fallait faire une troisième injection. et que bon ben là c'est le travail de nos communicants. Nous on le fait dans nos cabinets, je dirais tous les jours, pour les patients qu'on voit qui viennent pour un renouvellement de traitement, nos personnes âgées, les patients qui ont des pathologies chroniques, on leur demande quand est-ce qu'ils ont fait leur deuxième injection, et ensuite on leur dit bien faudra faire votre troisième injection à partir de cette date-là. Je dirais qu'il n'y a pas d'opposition, c'est juste comprendre l'intérêt d'eux, parce que les Français pensaient qu'après avoir fait la deuxième injection, on était sorti de l'auberge, que c'était fini le Covid, et bien non, et de la même façon qu'il faut aussi respecter les mesures barrières, parce que si aujourd'hui on voit une augmentation de la circulation du virus, c'est de par l'abandon ou en tout cas la moindre utilisation des mesures barrières. On le voit tout particulièrement chez la population des plus de 65 ans, où on reprend ce qui est normal. On essaye de reprendre une vie normale comme avant le Covid, avec voilà des thés dansants, des balles, un jeu de boules où finalement on n'a plus de masque, on se serre la main, on s'embrasse, et on arrive sur certains territoires en France, non seulement à des taux d'incidence bien sûr supérieurs à 50, mais même parfois supérieurs à 400.
Le docteur Luc Duquesnel, président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français. Dans ce contexte, le Parlement autorise la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. L'Assemblée nationale a voté l'ultime mouture du projet de loi de vigilance sanitaire. Un vote par 118 voix pour, 89 contre et une abstention. Les tentatives de traversée de la Manche par des candidats à l'exil sur des bateaux se multiplient ces derniers jours au large du Nord et du Pas-de-Calais. Le bilan ne cesse de s'alourdir. De morts, un disparu, des centaines de personnes secourues en deux jours. Hier matin, le corps d'un migrant a été retrouvé dans une embarcation remplie d'eau. À ses côtés, deux personnes en état d'hypothermie sévère ont été transportées à l'hôpital. Un TER a percuté accidentellement quatre candidats à l'exil à Calais. Il y a un mort, un blessé en urgence absolue et deux blessés légers. Un drame sur la voie ferrée reliant Dunkerque à Calais s'est arrivé à proximité d'un campement de migrants. Le fondateur de l'association mémorielle Les Oranges, Mohamed Kaki, continue sa tournée dans les villes d'Île-de-France avec sa pièce 17 octobre 1961, je me souviens. Elle sera jouée ce samedi à 20h au Théâtre des Fêtes à Nanterre, une ville emblématique de l'immigration algérienne. Mohamed Kaki revient d'abord sur l'accueil du public lors des représentations à Aubervilliers et Épinay.
Ces représentations ont eu un accueil très chaleureux, un public nombreux, important. Dans toutes les villes où nous avons été, ça a été un bain de jouvence. Donc à Aubervilliers, à Épinay-sur-Seine, à Nanterre aussi le 16 octobre, nous avons eu un accueil magnifique où il y a eu beaucoup d'émotions. Des gens pleuraient aussi, m'ont dit que ça les avait énormément touchés. Et puis il y a eu surtout un débat magnifique à la fin de la pièce avec le public. Et ça, ça a été aussi un moment formidable de témoignage très important, et notamment à Épinay-sur-Seine où nous avons eu un accueil vraiment formidable. Et je tiens à remercier le maire et la municipalité d'Épinay qui nous ont accueillis comme il se doit, et aussi à remercier mes amis des Oranges d'Épinay-sur-Seine.
Et alors, vous allez jouer à nouveau à Nanterre. Pourquoi la ville de Nanterre est-elle importante aussi pour parler de cet événement du 17 octobre 1961 ?
Nanterre, c'est très important pour nous. Nanterre, donc ce samedi 6 novembre, ça va être un moment très très fort. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. Nanterre, c'est une ville historique de l'immigration algérienne. Nanterre, c'est le PPA, le Parti du Peuple Algérien de Messali Hadj, qui a été créé en mars 1937 à Nanterre dans un café algérien et déclaré à la préfecture sénéoise. Nanterre, c'est évidemment le plus grand bidonville de France dans les années 60, et à Nanterre, c'est aussi le plus grand cortège, le plus immense du 17 octobre 1961 qui s'est dirigé vers Paris. Des femmes, des hommes, des enfants endimanchés étaient partis à la manifestation du 17 octobre 61. Donc c'est quelque chose d'historiquement important. Je dirais que Nanterre, c'est une tradition politique, culturelle algérienne. C'est une ville vraiment importante. Et puis c'est aussi là que les Oranges se sont créées. C'est aussi là que nous avons le boulevard du 17 octobre 1961, qui est historique, unique, inédit. C'est aussi à Nanterre que nous avons la rue et le groupe scolaire Abdelmalek Sayad, du nom d'un grand sociologue algérien, pour lequel ce grand sociologue, mais aussi le boulevard du 17 octobre 61, nous avons mené un combat important depuis plus de 20 ans et qui a débouché, nous en sommes heureux, sur cette issue de l'existence dans l'espace public de lieux, de la connaissance et de la culture.
Ahmed Kaki, auteur de la pièce 17 octobre 1961, je me souviens, une pièce jouée ce samedi à 20h au Théâtre des Fêtes à Nanterre. Cela fait aujourd'hui 3 ans, ce drame à Marseille. 8 personnes étaient tuées dans l'effondrement de plusieurs immeubles rue d'Aubagne, au cœur de la cité phocéenne. L'enquête est toujours en cours. La justice a procédé à 3 mises en examen dans ce dossier. 19 axes, 90 propositions, une 60aine d'organisations présentes le pacte du pouvoir de vie. Une initiative à 150 jours de l'élection présidentielle, initiative pour un nouveau modèle de société écologique, sociale et démocratique. Parmi ces organisations, la CFDT, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Nicolas Hulot, le Secours catholique ATD Quart Monde ou encore Emmaüs. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, ce samedi à 11h et 23h, est Hajar Bali pour un premier roman, Écorce, qui paraît en France chez Belfond et en Algérie chez Barzac. La romancière est également mathématicienne. Une discipline qui a influencé sa façon d'écrire. Extrait.
Je travaille également sur le langage. Et pour moi, en fait, et aussi en tant que mathématicienne, on apprend dans les mathématiques que la ligne droite, dans la physique et dans les mathématiques, que la ligne droite en réalité n'existe pas. C'est une abstraction, en fait. C'est plutôt les courbes et comme la pensée. C'est-à-dire que toute pensée directe, on organise la littérature ou la société autour d'un langage qui se veut cohérent, droit, direct, mais qui ne correspond pas, de mon point de vue, à toutes les sinuosités d'une pensée. Et c'est pour ça que ce roman cherche, en fait, à faire découvrir toutes les possibilités de langage qu'on n'a pas encore fouillées. D'où le désir de désaxiomatiser, on va dire, la vie.
Hajar Bali, autrice de Écorce, qui paraît en France chez Belfond et en Algérie chez Barzac. Elle est l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient ce samedi à 11h et 23h. Une émission rediffusée dimanche à 19h. Émission présentée par Loïc Barrière. Loïc Barrière qui reçoit dans Pluriel à 19h et 23h. Ce vendredi soir, Bertrand Pancher, député de la Meuse, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale, membre du Parti Radical. Fin de cette édition. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.